Radio Barque 30e, deuxième partie. Michel, notre sommaire annonçait tout à l'heure, et nous allons le tenir, une polémique qui s'annonce sur le projet de salle multimodale à Narbonne.
Oui, c'est un
projet... voulu par la mairie de Narbonne et par
voulu par la mairie de Narbonne, oui, qui était dans son programme d'ailleurs.
Qui était dans son programme.
Dans son programme, ce qui ne veut pas forcément dire que quelques projet figurant dans un programme soit effectivement réalisé. Encore faut-il en évaluer la pertinence, faire des études de marché, faire de l'accès, etc. Bon, peu importe. C'est un débat. Aujourd'hui, je constate que dans la presse locale et dans les médias, enfin, dans les réseaux sociaux, la polémique bat son plein, et elle bat son plein après que la dernière réunion du conseil municipal de Narbonne est à l'ordre du jour.
Ce dossier
pour lancer le concours à la fois de conception en fait et de réalisation qui relatif à cette salle. Alors une petite remarque d'entrée de jeu.
Ce qui semble hérisser notamment l'opposition et le Parti socialiste, c'est le prix, disent-ils.
500 000 euros, qui de toute façon.
Non, 20 millions d'euros.
Non. 20 millions d'euros, c'est la salle.
Ah, 500 000 euros pour l'étude.
C'est 20 millions d'euros pour la salle. Il faut compter à peu près...
pour le fonctionnement, ensuite.
Non. 20 millions d'euros pour la salle. Investissement. 2 millions, c'est à peu près le tarif moyen pour le fonctionnement de ce type d'outil fait en France. J'ai rapidement fait le tour de la question. C'est à peu près ça. J'arrondis. C'est
donc 2 millions annuels.
Et à la réunion dernière du conseil municipal, puisqu'il n'était question que de la phase conception-réalisation, donc... 500 000 euros votés pour 5 groupements architectes plus entreprises du bâtiment, pour aller vite, afin de faire des propositions de ce futur projet. 500 000, qui de toute façon seront dépassés. Ça veut dire qu'il y en a un qui sera retenu, mais bon, il y aura 500 000 euros de toute façon
qui sont déjà dépensés.
De dépenser. Bon. Alors, et ce qu'il faut constater... C'est que contrairement, si j'ai bien lu, à ce qui avait été annoncé par le maire de Narbonne, à savoir que ce projet se ferait sous la forme d'une participation publique privée.
Un PPP.
Un PPP, c'est-à-dire qu'on confie à un opérateur marchand, entre guillemets, spécialisé dans ce genre de choses, on confie la réalisation en termes d'investissement et d'exploitation de la dite salle. Bon, ce que je constate, mais peut-être ai-je mal lu, on verra si c'est confirmé ou infirmé par les réactions du maire ou de ses collaborateurs après cette chronique, mais le marché ne fait pas du tout état de cette procédure et, au contraire, présente une procédure classique où la mairie, la commune, serait effectivement l'opérateur, le maître d'œuvre, si je puis dire, celle qui, effectivement, réaliserait les investissements, enfin réaliserait, financerait les investissements et ensuite confierait l'exploitation peut-être à un tiers. Donc, première remarque, on n'est plus dans le schéma annoncé précédemment par le maire sur le mode de financement de cette salle. Dans les 5, je note qu'il y a 2 opérateurs narbonnais, dont un célèbre qui est bien connu dans le monde sportif et du bâtiment local. Je ferme la parenthèse. Et à côté, il y a aussi un opérateur, un concepteur, architecte très connu, celui qui a réalisé le 5e lycée, qui a réalisé le fameux musée de Marseille. Chacun fait les paris aujourd'hui sur qui sortira des 5.
Oui,
moi, j'ai fait le mien.
Et Dieu reconnaîtra les siens, là, comme on dit.
Mais sur le fond, quand même, j'aurais pu penser qu'avant de lancer ce marché, le maire, en fait, ait eu, passez-moi l'expression, l'intelligence de faire une étude de marché sur la pertinence
l'utilisation économique, future de cette salle.
Économique. Financière et sociale de cette salle. Premier point. Deuxième point, j'aurais pu penser aussi que l'on ait mis en balance ce genre d'investissement avec tous les investissements nécessaires aujourd'hui sur l'ensemble du patrimoine existant, sportif et économique de la commune. Le parvis du théâtre est dans un état affligeant.
Les marches notamment. Parvis. Avec ce parvis,
Bon, c'est la compétence communale.
Ça mériterait réparation.
Les chaussées, les trottoirs de cette ville, pour les 2/3 d'entre eux, je l'ai dit, je le répète, sont dans un état aussi indigne d'une ville classée classée comme une ville d'art et d'histoire. Je vous note aussi, mais au passage, que la piscine du Palais du Travail, qui appartient à la mairie de Narbonne, est hors norme, complètement hors norme. Il faudrait refaire, il faudrait la cuver. En fait, ça, bon, bref, il y a
donc tu vois tout un tas d'investissements possibles.
Il y a tout un
possible.
Tas d'investissements possibles et encore une fois, qui, de mon point de vue, aurait dû être évalué, mis en perspective par rapport à celui qui est projeté par le maire, notamment à la salle multimodale, et mis en rapport avec le coût, effectivement, que cela représente. C'est tant est qu'effectivement, il était démontré avant qu'il y avait une utilité économique et sociale pour cette future salle multimodale. Voilà. Ce que je ne pense pas.
Voilà. Je précise quand même que le prochain Radio Barque sera consacré de nouveau au sujet, puisque nous y recevrons le Parti Socialiste Narbonnais, deux membres éminents, Enzo Lefebvre et je crois Catherine Breton, qui est responsable et dont on sait qu'ils sont partis, alors vent debout, contre ce projet depuis quelque temps par médias interposés.
Cela dit, je ne suis pas allé chercher au Parti Socialiste mon propos ni mes arguments.
Je m'en doute, Michel. Pour conclure cette deuxième partie, tu as sorti un billet sur les, alors je ne sais pas comment dire, les nuits de boutistes, les nuits...
Oui, il m'est venu cette nuit, justement, et ce matin de bonne heure, avant de rejoindre le studio, j'ai jeté
alors,
sur mon...
Expliquons ce que c'est que ces nuits de boutistes.
Nuits debout, alors c'est pas compliqué. C'était un soir de cette semaine, hein, je passe devant mon écran de télévision, mon épouse regardait le journal de 20h de TF1, et je vois en fait, un journaliste, enfin, plutôt des images de jeunes, enfin, de manifestants, au crépuscule.
Alors, c'est place de la République. République à Paris.
Place de la République. Alors, très typé d'ailleurs, les manifestants, hein, des bon, profils classiques, hein, enfin classiques, pardon, profils typés. Hein, jeunes et vieux verts, jeunes et vieux étudiants, sociaux, psychos, lettres, une pancarte pour la semaine 20h.
C'est-à-dire les professionnels habituels de la manif.
Une autre, non à la dictature, choses, hein. Non à la dictature néolibérale. Ouais. Bon, et puis des canettes, machin. Et puis tout d'un coup, je vois le journaliste prendre un ton, enfin, sérieux comme un pape, qui s'arrête à la caméra devant un petit groupe de 4 ou 5 personnes assises en rond. Hein, et il présente ce cercle d'études, si je puis dire, comme travaillant sur une réforme de la Constitution.
Ah, alors, là, bon, il travaille, voilà. Alors, les nuits de boutistes, place de la République, pendant la nuit, oui,
Il travaille. Alors, bon, le fou rire m'a pris. Bon, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, en fait, hein,
et, ouais, c'était...
Non, mais, c'était pas, mais le journaliste était vraiment sérieux.
Et alors, ils ont l'air de se prendre un peu pour les indignados espagnols.
Ah oui, c'est ça, oui. Hein, hein. Alors... Le lendemain matin, comme tous les matins, je me lave et je me rase, l'oreille tendue.
Ça c'est une info intéressante.
L'oreille tendue vers France Culture et les matinales de France Culture. Bon, il se trouve que voilà, le matin, j'écoute cette émission-là et bon, Guillaume Hermer.
Nul n'est parfait, Michel.
Guillaume Hermer, qui est le maître d'œuvre de cette matinale après les infos. Il nous informe que voilà qu'il avait invité. Il avait invité des intellectuels, bon, sociologues, etc. Jusqu'aux boutistes, en fait, qui a probablement passé la nuit, si je puis dire, avec eux, encore que je m'en jante fort. Et alors, je lis, j'entends le sommaire, j'écoute les premiers propos. Alors là, bon, là, c'était pas le fou rire, c'était un coup de colère qui m'a pris. J'ai tout arrêté et je suis parti direction Presto Allegro, quoi, hein, direction Radio Classique, là où il y avait le secrétaire d'État au budget qui disait...
Alors, et là, c'était...
Alors, le plus drôle, c'est que juste après que je sois parti, j'ai découvert que Brice Couturier, le chroniqueur présenté comme un néolibéral rayac par les quatre invités, dont Clémentine Autain, d'ailleurs, entre parenthèses...
Ah oui, la fameuse Autain.
Oui, avait lui aussi claqué la porte au nez des nerfs, parce que, bon, il en avait ras-le-bol, et je le cite, hein, parce que, bon, c'est pas dans ses habitudes, même si... Je dois faire une confidence. Je connais depuis très longtemps Brice Couturier. Nous avons passé un petit moment ensemble dans une certaine université française. Il est parti en claquant le nez en disant, bon, écoutez, bon, j'en ai ras-le-bol, hein, je n'ai pas la vocation à servir ici de punching ball, en fait, à une assemblée générale de 4 ou 5 personnes qui pensent de la même façon. Donc il s'est cassé, moi aussi. Et bon, ça pourrait dire quand même que... On est dans un pays où certains journalistes, quand même, ont tendance à croire que ce qu'ils ont dans la tête est la réalité et que vraiment le monde demain va changer.
Et, bon, voilà. Et on est dans le culte de la frivolité.
On a assisté la veille sur TF1, le lendemain sur France Culture, voilà, à des histoires à dormir, mais alors à dormir assis, quoi, carrément assis.
Voilà, donc nuit debout, des histoires debout, à dormir assis. Ça sera la conclusion pour cette deuxième partie avant une pause. Après laquelle laquelle nous retrouverons donc nos deux membres de la CAPEB, Jean-Marc Wagner et Olivier Coulon.